Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. François Morel, comédien, chanteur, poète, est un trousseur d'aphorismes, un funambule de l'esprit, un fantaisiste, philosophe qui plante avec délice ses banderilles car la vie le mérite bien. Trois livres au charme fou et très très différents les uns des autres sont nés récemment sous sa plume. Le Dictionnaire amoureux de l'inutile, coécrit avec son fils Valentin et publié chez Plon. Un petit traité absolument hilarant de déconstruction philosophique baptisé Au comptoir des philosophes et publié chez Philosophie Magazine. Et Tous les marins sont des chanteurs, coécrit avec Gérard Mordilla et Antoine Salaire, publié chez Calman Lévy et accompagné d'un album du même titre qui sent bon les embruns et qui déjà est dans les bacs.
Europe 1.
Donc, c'est un bonheur absolu que de recevoir François Morel.
Bonjour François. Merci, un plaisir d'être reçu par vous.
Alors, cher François Morel, vous exercez l'un des rares, des même très très rares métiers où prouver son savoir-faire, même s'il est prodigieux, ne suffit pas. Le pouvoir des artistes tient à vraiment bien autre chose que du savoir-faire.
C'est vrai. Le précédent spectacle que j'ai joué longtemps et inspiré de Raymond Devos s'appelle « J'ai des doutes ». Et j'ai l'impression que justement, si on perd cette capacité à avoir des doutes, on est moins bon.
Ouais.
Donc c'est compliqué parce que je pense que quand on est ébéniste, par exemple, on apprend son métier et on le fait de mieux en mieux. Il y a des techniques. Ouais. Alors que là, si la veille de la première, on est absolument sûr d'avoir le plus grand talent du monde, j'ai l'impression qu'on va être moins bon que s'il n'y a pas cette petite inquiétude qui fait qu'on y va parce que justement on se sent au fond de soi légèrement imposteur.
Il paraît qu'enfant vous vous rêviez à la fois en Jacques Chancel et en artiste interviewé par Chancel, c'est vrai ?
Oui, oui.
Ouais.
Ouais. Je rêvais d'abord d'être Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Ah.
Je me souviens de ça, ma grand-mère m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et je me souviens que quand ma grand-mère m'avait posé la question, j'étais plus petit que la table de la salle à manger.
Donc, mais l'ambition était grande.
Ouais. Surtout de faire les deux.
Ah, c'est ça, une ambition double.
Ouais.
Et c'est drôle parce que j'ai remarqué que dans les interviews, vous préférez parler des mystères poétiques ou absurdes de la vie plutôt que de vous confier réellement François Morel. Et pourtant, vous nous l'avez dit, vous rêviez effectivement d'être un jour peut-être interviewé par Chancel.
Donc, oui, parce que j'étais prétentieux. C'était un jeu, quoi. J'imaginais.
C'est pour ça qu'on rêve d'entrer dans la lumière au départ.
Je sentais que quand je faisais, par exemple, des sketchs à la fin de l'année scolaire pour me moquer des profs ou des choses comme ça, quand je suis monté sur dans la salle des fêtes, sur la scène, pour jouer des sketchs militaires absolument navrants, devant un public qui me regardait, je me sentais vivre très fort et je me suis dit, c'est ces moments-là que je dois multiplier parce que je n'étais pas très doué. J'étais moyennement doué pour plein de choses. J'étais pas très sportif, j'étais pas en maths, je comprenais rien, physique, chimie, je savais pas. Mais je me débrouillais à peu près pour écrire et puis
pour rêver, et
en récitation, j'étais pas mauvais.
Alors François Morel, pour plonger dans votre univers, il faut par exemple vous lire. Et justement, vous avez écrit à quatre mains avec votre fils Valentin un livre absolument délicieux intitulé « Le dictionnaire amoureux de l'inutile ». Bon, l'inutile, même Cyrano vantait l'inutile. Mais désormais, l'inutile est indispensable dans ce monde hystérisé par le rendement, la raison et la nécessité. L'inutile, c'est une soupape, c'est une Madeleine de Proust, c'est la première porte vers le rêve, l'inutile.
Oui, c'est un petit peu tout ça, c'est un peu... Moi aussi, c'était le bonheur d'écrire justement avec mon fils, Valentin, d'avoir ce projet-là sur une espèce de collection sur tous les moments inutiles, mais qui sont tellement importants, des moments où il se passe pas grand-chose, mais où, son papa, on est avec son fils, à côté d'une rivière, on prend un caillou, on le jette dans l'eau.
Ça fait des ricochets.
On essaie d'en faire plus, et ça dure un petit moment, et c'est délicieux.
Et ça crée un souvenir magnifique.
Voilà, et puis en plus, c'est tout le pouvoir de l'imaginaire, vous aimez beaucoup la radio, et moi aussi, il y a une chaîne concurrente à la vôtre, dans laquelle, par exemple, il y avait le tribunal des flagrants délires.
Oui.
Où Claude Villers avait demandé à chacun d'être déguisé. Et Pierre Desproges avait la robe de l'avocat, etc. Louis Rego et tout ça étaient tous déguisés. Et je trouve que ça donne quelque chose de formidable parce que même si on est, si on les voit pas, on les imagine et on a tellement envie d'être avec eux, quoi, que ça donne une frustration qui est formidable. Donc, c'est tous ces moments inutiles, ce mot inutile qu'on a essayé d'interroger un peu par tous les côtés.
Alors, effectivement, cet éloge de l'inutile, vous le déclinez avec une fantaisie gourmande dans l'inventaire de laquelle on trouve, le poisson rouge, le klaxon d'avion, les marque-pages, la météo marine. Alors, ça n'engage que vous. L'horoscope, le liseron, la baguette du chef d'orchestre, parce que j'ai appris grâce à vous que Leonard Bernstein n'avait pas de baguette, les boules avec la neige qui tombe sur une tour Eiffel, le yo-yo, les autotamponneuses, le musée du clou, le troisième assistant metteur en scène, les cocottes en papier, on dirait vraiment un inventaire à la Prévert. Alors oui, tout ça existe, semble ne servir à rien, mais on perdra notre âme le jour où on fabriquera plus que des choses utiles.
Oui, puis c'est le fruit des rencontres pendant 3 ans, parce que en fait le bouquin on l'a fait tranquillement sur 3 ans avec mon fils. Donc c'est à chaque fois qu'on voyait un truc par exemple sur internet qui nous faisait rire ou qui nous semblait émouvant, tout ça, on s'appelait, on se disait t'as vu ça. Par exemple, vous parliez de Bernstein tout à l'heure, ça, oui. Je conseille vraiment à tous vos auditeurs de regarder ça parce que c'est merveilleux. Il dirige un orchestre et à un moment donné il abandonne sa baguette, donc on peut poser la question de savoir si une baguette est utile ou pas pour diriger un orchestre. Et tout d'un coup, il y a une telle complicité entre les musiciens et le chef d'orchestre qu'un regard, tout ça, et tout ce qui se passe sur le visage de Leonard Bernstein, c'est hallucinant d'inspiration.
Après l'émission, j'irai voir ça sur YouTube. Bon, vu le contexte, François Morel, ce dictionnaire amoureux de l'inutile, il résonne avec la sentence qui régit nos vies depuis un an, vraiment, parce que on n'arrête pas de faire le tri entre l'essentiel et le non-essentiel. Et Dieu sait si vous, en tant qu'artiste, vous assistez justement ce tri cruel.
Mais c'est pas, moi, j'ai pas envie. Dans le contexte d'être polémique et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quoi l'essentiel, quoi ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens en ce moment, mais je n'en veux à personne et j'attaque personne parce que la situation est extrêmement compliquée. Mais je crois qu'il y a une détresse en ce moment. J'ai des copains médecins qui m'en parlent, de gens, notamment des jeunes, des gens qui devraient entrer dans la vie et pour qui c'est tellement compliqué. Je crois qu'on boit beaucoup chez soi. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au bout du rouleau et que je pense à eux et qu'ils ont besoin aussi. Enfin, c'est essentiel de se rencontrer, évidemment, de se croiser, de parler, de s'embrasser, de se tenir par la main, etc. Donc, plein de choses qui sont, qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment.
Alors, vous parlez des jeunes. Parlons de Valentin, votre fils. Ce livre, vous dites que vous l'avez façonné tranquillement, comme ça, chacun à son rythme, mais pendant 3 ans, en fait, vous avez travaillé en ping-pong,
ouais,
l'un avec l'autre. C'est ça ?
Ouais. C'est-à-dire, on a essayé de se surprendre, de s'étonner, de s'émouvoir, on a envie plutôt de bien s'entendre, donc je pense qu'il avait envie de m'épater, moi aussi j'avais envie qu'il ne soit pas trop déçu. Donc tous les mois en fait, on s'est envoyé chacun 5 articles qu'on envoyait en même temps à nos éditeurs de chez Plon. Et on était surpris parce que tous les mois ils nous disaient « Oh, c'est bien, c'est marrant, continuez », donc on a continué.
Et tant mieux pour nous lecteurs. Et alors, dans ce dictionnaire, Amoureux de l'inutile, il y a vraiment de très jolies illustrations à la pointe sèche. Christine Morel, c'est votre épouse.
C'est ni plus ni moins mon épouse.
Voilà.
Et c'est la maman de Valentin.
Et c'est, bon, alors c'est un travail en famille alors.
Voilà, exactement.
Bon, il y a dans ce dictionnaire Amoureux de l'inutile un superbe chapitre, François Morel, sur Don Quichotte. Don Quichotte qui, en se battant contre les moulins à vent, demeure tout de même le champion absolu de l'inutile, mais avec une maestria, un panache.
Ah bah oui, c'est le rêve absolu. Oui, c'est aussi, je pense, dans ma tête, c'est Jacques Brel, c'est l'homme de la Manche et tout ça, quoi. C'est l'homme, quoi, tout simplement, qui veut essayer de faire des choses formidables.
Vous pensez qu'il diminue le peuple des rêveurs dans notre société ?
Je sais pas. J'espère que non, je crois pas. Non, je crois que les gens ont toujours besoin d'échappatoires, de rêves et même d'humour.
Parfait. Alors vous êtes là, vous êtes mon prisonnier. On fait une très très courte pause et puis on se retrouve dans une poignée de secondes avec François Morel.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h avec Isabelle Morizet.
Alors cher François Morel, vous êtes un enfant de l'Ouest qui a grandi sous la bruine normande, j'espère que les Normands vont me pardonner, dans un village au nom champêtre, Saint-Georges-des-Groseilliers. Votre papa était sous-chef de gare et le seul lien en fait avec le métier qui est devenu le vôtre, eh ben, il a été fait par le poste de télé qui vous hypnotisait quand, enfant, vous regardiez au théâtre ce soir ou au music hall ce soir. En fait, vous fantasmiez sur la vie parisienne et ses 130 théâtres quand vous étiez enfant, ado.
Je ne savais pas qu'il y avait 130 théâtres, sûrement. Je ne sais pas si c'était la vie parisienne ou c'était en fait être sur scène et raconter des histoires. Ça me fascinait vraiment, et peut-être aussi faire rire, parce que moi c'était mon rapport au monde. J'étais souvent le petit rigolo dans la classe, et en plus moi j'étais impassible, donc les gens autour de moi se faisaient engueuler, pas moi, donc c'était parfait.
Ah oui, pince sans rire.
Oui, assez pince sans rire.
Ça marche toujours mieux comme ça. Bon, à la maison, il paraît qu'on lisait assez peu. Il vous est venu comment, le goût des mots?
Bon, il y avait peu de livres, mais en même temps, on lisait le journal, on lisait Ouest France tous les jours.
C'est un bon début.
Et en même temps, aussi, mon père avait de temps en temps, tout d'un coup, il s'entichait pour un écrivain. Il parlait aussi de Jules Verne, il aimait beaucoup Jules Verne. Il avait lu ça quand sa mère faisait des ménages au château de Varennes, à Saint-Baumer-les-Forges. Et tout en haut, quand il pleuvait, ce qui arrivait de temps en temps quand même, il lisait les livres de Jules Verne et il en parlait avec beaucoup d'émotion. Donc,
ça devait être chouette quand même de lire du Jules Verne dans un château.
Sous
un ciel de brume.
Oui, moi ça me faisait rêver. Et donc, j'avais un frère, une sœur, et tous les deux ont fait des études. Mon frère est devenu prof d'anglais. Ma sœur elle fait des études pour devenir je sais plus quoi.
Donc ils vous ont glissé des bouquins entre les mains.
Ils lisaient beaucoup aussi, oui. Donc il n'y avait pas énormément de livres, mais surtout, mon père avait surtout envie qu'on monte dans l'ascenseur social et qu'on fasse des études. Lui, il avait beaucoup souffert d'avoir perdu son père très jeune, et il avait envie qu'on fasse des études, parce qu'il pensait que c'est comme ça qu'on allait s'en sortir, et il avait plutôt confiance dans notre capacité à suivre des études.
Alors, justement, pour les faire de manière rigoureuse, ces études, en fait... Il paraît que c'est à cause de votre grand frère que votre papa a décidé un beau jour comme ça de mettre ses fiches chez les curés, comme on disait alors. Donc vous avez grandi dans un milieu très catho de gauche. C'était une sorte de pensionnat, une institution de quelle sorte?
C'était pas catho de gauche. Hein. C'est-à-dire mon père était militant cégétiste et les jours où il avait... un peu bu, il trouvait que ça serait mieux qu'une église serve à ranger du foin plutôt qu'à réunir les fidèles. Et ma mère, elle allait plutôt régulièrement à la messe. Et donc, on a fait la communion, etc.
Voilà,
donc,
mais ça, il a mis ses fiches beaucoup. Chez les curés.
Oui. Mais ça arrivait beaucoup, ça, dans les familles, comme ça. Marcel Hamon, il vient voir mes spectacles de temps en temps, comme ça. Et il est pas tout jeune, mais en fait, il trouvait qu'on avait une ressemblance. C'est-à-dire qu'il avait aussi un papa coco et une maman cato. Et c'est un peu ce que j'avais raconté dans un spectacle qui s'appelait Hyacinthe et Rose.
Oui. Et ça fait une très jolie complémentarité, ça.
Mais oui, Puis souvent, c'était basé sur une idée assez généreuse chez l'un et chez l'autre.
Alors François Morel, même si, en grandissant, vous avez pris vos distances avec la religion, que reste-t-il de profondément ancré en vous de cet enseignement délivré par les curés il y a une petite cinquantaine d'années?
Je sais pas trop.
Vous cherchez?
Je cherche un peu. Moi, j'allais même... quand vous dites par exemple catho de gauche, c'était pas ma famille, mais c'était un peu l'entourage, c'est-à-dire le milieu social où je pouvais aller, les groupes de jeunes, etc. C'était assez à l'époque catho de gauche. Et je me souviens que j'étais allé à des réunions de la JOC, par exemple, la jeunesse ouvrière chrétienne.
Oui, justement, vous avez intégré la jeunesse ouvrière chrétienne, mais vous n'êtes pas resté longtemps, c'est ça?
J'ai intégré, ça me permettait de sortir de chez moi un soir par semaine, etc., et d'aller voir des copains. Mais j'aurais bien aimé qu'on me parle de Dieu, par exemple, ça m'aurait intéressé. Mais on parlait plutôt des luttes ouvrières et tout ça, alors que je trouvais que s'il y avait un groupe chrétien, moi, ça m'aurait intéressé plus de parler justement de tout ce qui nous dépassait et tout ça. Et ça, j'en ai jamais entendu parler d'une façon, en tout cas, qui m'a intéressé.
Alors, jusqu'à l'âge de 18 ans, vous êtes resté dans votre bulle de Saint-Georges-des-Groseilliers, dans l'Orne. Et puis vous êtes parti faire des études de lettres à l'université de Caen. Mais à quel moment vous avez osé avouer à vos parents que vous sentiez en vous une fibre artistique qui allait tout emporter et vous faire un jour grimper sur scène?
Bon, ils savaient que j'aimais bien le théâtre et j'en faisais d'une façon un peu en amateur, comme ça. Il y avait un petit club de jeunes qui s'appelait l'Albatros, à Saint-Georges-des-Groseilliers, où on faisait des spectacles. Je me souviens, j'avais fait un spectacle de poèmes où j'avais réuni, je sais pas, des poèmes de Jean Tardieu, de Jacques Prévert, de Boris Vian. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique et tout ça. J'ai dû dire ça sur scène quand j'avais 16-17 ans. Et puis, j'avais fait un spectacle avec un copain qui est devenu instituteur, maître des écoles, et qui s'appelait Maurice et Maurice sont dans un bateau. Donc,
tout ça se mettait en place.
Ouais,
quand
ça
même.
Se mettait en place. Et puis je me disais, il faut que je connaisse un peu, que j'ai une connaissance un peu livresque, peut-être, du théâtre. Et puis voilà, ça rassurait mes parents que je fasse des études de lettres, et moi ça me rassurait peut-être aussi en disant, je serai professeur.
Jolie étude de lettres. Maîtrise
de lettres. Et puis aussi, le samedi matin, on faisait vraiment du théâtre avec Sacha Ourvich et Michel Chiron, et qui nous dirigeaient. On faisait les premières improvisations et tout ça. Donc, je prenais beaucoup de plaisir. Mais quand j'ai eu la maîtrise, je me suis dit, mais c'est pas ça. J'ai pas envie d'être professeur, et je pense que je serais frustré si, à un moment donné dans ma vie, j'essaie pas quand même de devenir vraiment comédien.
Voilà, on retrouve tout de suite François Morel.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
François Morel est un homme orchestre, un frégolier, un funambule, bref, un artiste, comédien, chanteur et auteur. On se promène ensemble dans ses souvenirs. Alors François Morel, votre maîtrise de lettres en poche, parce que je continue de dérouler le fil, de votre histoire, eh bien vous pouviez bien sûr envisager des carrières très différentes de celle qui a fait finalement votre bonheur. Vous auriez pu enseigner la littérature comme vous y consacrez exclusivement en tant qu'auteur. Or, à Paris, eh bien vous êtes présenté un beau jour au concours d'entrée de l'école de la rue Bollange pour devenir comédien. Et vous l'avez remporté avec succès, ce concours, mais vous n'êtes pas présenté au concours du conservatoire. Pourquoi ?
Ça me paraissait trop loin socialement. Je ne sais pas pourquoi. Y avait à l'époque trois grandes écoles. Il y avait le conservatoire, il y avait le TNS.
Ouais. À Strasbourg,
et il y avait l'école de la rue Blanche. Il y avait une école qui me paraissait trop loin socialement, c'était le conservatoire. Il y avait une école qui me semblait trop loin géographiquement, c'était le TNS. Et il y avait l'école de la rue Blanche. En plus, j'avais vu que Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Guy Bedos avaient fait cette école-là. Et je me suis dit, oh, ça, j'aimerais bien.
Bah, normal. Sauf que lorsque vous avez été reçu à l'école de la rue Blanche et que vous l'avez annoncé à votre maman, eh bien, elle a fondu en larmes, votre mère, mais pas de joie, de désespoir.
Peut-être pas de désespoir, mais d'inquiétude. Voilà. Ouais, mon père était plus confiant.
Oui.
Ouais, mon père, il disait, oh, il va toujours réussir à s'en sortir.
Vous dites, François Morel, qu'à Paris, en fait, vous avez découvert à cet âge-là, donc vous étiez très jeune, vous aviez votre maîtrise de lettres en poche, mais vous aviez quoi ?
21 ans.
21 ans. Vous avez découvert que vous aviez une lenteur dans votre phrasé, une lenteur liée à la manière dont on parlait dans votre province. Qui vous avait dit ça, en fait ? C'était vos profs de la rue Blanche ?
Je ne sais pas. Par exemple... Quand je sentais quand il y avait la scène des paysans dans Marivaux ou dans Molière et tout ça, je trouvais que souvent c'était très faux. C'était des gens du 16e ou du 8e arrondissement qui essayaient de faire les paysans et c'était nul. Alors que moi je les avais entendus, les paysans, enfin j'en connaissais. Donc je savais qu'il y avait une façon infrasée j'avais plus de facilité à retranscrire que des gens qui étaient seulement citadins. Donc la première fois que j'étais engagé au théâtre, c'était pour faire un deuxième classe, le personnage de Salé dans Les Dégourdis de la 11e de Moisy Héron et d'Aveillan, un vaudeville militaire.
Oui.
Et je sentais que par rapport à mes camarades qui passaient l'audition, j'étais plus juste parce que j'avais plus souvent entendu parler à la campagne, quoi. Je sais pas, je savais comment on parlait à la campagne, quoi. Il y avait une façon de parler aussi trop fort qui était des fois paysanne, parce que mais c'est normal parce que les gens étaient souvent dans des champs et qu'ils devaient parler d'un bout du champ
et
à l'autre.
Et quand le vent emporte les paroles.
Voilà. Donc, je me suis servi de ces souvenirs d'enfance que j'avais quand j'avais entendu des voisins de ma grand-mère à Chancecrée ou à Saint-Baumer-des-Forges parler fort comme ça, et de cet accent-là dont on
mais
se moquait
un peu. Mais jouer des petits marquis, ça vous amusait aussi.
Oui, mais j'en étais moins capable.
Vous en étiez moins capable.
Fallait plus travailler.
Alors, le Paris que vous avez découvert à cette époque-là, il ressemblait à celui que vous imaginiez, que vous aviez fantasmé ou pas du tout?
Vous savez, nous, on avait des coupons SNCF, parce que mon papa travaillait à la SNCF.
Oui.
Donc, je pouvais aller à Paris gratos.
Ah, donc vous n'habitiez pas à Paris, vous n'aviez pas à trouver une petite...
Si.
Ah, si. Mais alors, vous viviez comment pour payer la chambre de bonne, pour vous nourrir
J'étais,
et payer la rue Blanche.
Surveillant, j'étais pion.
Voilà. D'accord.
Et j'ai été même longtemps pion à Caen. Donc, je faisais des allers-retours entre Caen et Paris. Donc, j'ai fait de mieux, parce que j'aurais mieux fait de rester sur place et essayer de trouver un boulot sur place. Mais enfin, bon, voilà.
Alors, il paraît que lors d'un stage de la SACEM, François Morel, un fonctionnaire vous a dit que vous étiez un excellent auteur, mais que comédien, alors ça, jamais vous ne le seriez. Or, en 88, vous intégrez la série Palace, bon, qui triomphe sur Canal, dirigée par Jean-Michel Ribes. Et puis l'année suivante, Jérôme Deschamps vous prend dans sa troupe avec laquelle, de 93 à 2002, vous incarnerez la saga des Deschiens, personnage d'une France profonde et immuable, qui vous vaudra une notoriété absolument gigantesque. Ça a été carrément un phénomène de société, les Deschiens.
Je me rends pas compte, mais c'était
mais
en tout
si,
cas...
Mais si, vous le savez parfaitement.
Pas parfaitement, en tout cas, non. Parce que, en tout cas, moi, ce ne sont pas les souvenirs que j'ai. C'est les souvenirs...
Quels souvenirs avez-vous?
Les souvenirs d'une troupe et d'individus très marrants et tellement sympathiques.
Yolande Moreau.
Voilà, Yolande. Des gens, ils sont vraiment restés des amis. Enfin, Yolande Moreau, Olivier Saladin, Olivier Broche. C'est des gens, vraiment, j'ai grand plaisir à voir à chaque fois.
Mais alors, vous savez que certains journalistes, à l'époque, ont écrit que les Deschiens, en fait, étaient responsables de l'échec de Lionel Jospin en 2002.
Ouais, je crois qu'il y avait d'autres raisons.
sans doute. Mais on leur reprochait de malmener un petit peu trop une certaine France profonde, c'est ça?
Sans doute. Mais je pense que, c'est, de toute façon, quand on commence à expliquer l'humour, c'est mal barré. Hein.
Oui.
Donc, je trouve que c'est difficile de commenter l'humour. Soit ça fait rire, soit ça fait pas rire. Si ça fait rire, on a gagné. Si ça fait pas rire, bah tant pis, ça fera rire d'autres gens. Mais pour moi, le plus bel hommage qu'on a fait aux Deschiens, c'est Madame de Rothschild, qui était venue voir un spectacle.
Philippine. De Rothschild, oui.
Qui était venue voir un spectacle de Jérôme Deschamps, qui s'appelait Les Frères Zénith.
Ouais.
Et après le spectacle, donc on faisait vraiment des clochards célestes. Et après ce spectacle-là, elle était venue nous voir, elle avait dit « Oh, c'est merveilleux, parce que ces personnages, c'est nous ». Et que Madame de Rothschild dise « Ces personnages, c'est nous », ça voulait dire que ça dépassait quand même un regard sociologique, c'était juste...
C'est l'humain.
Voilà, c'était l'humain.
Juste avant de faire une pause, François Morel, ça a été compliqué quand même de faire oublier le personnage des Deschiens et de s'imposer dans des registres totalement différents lorsque cette aventure a cessé sur Canal en 2002.
Ça n'a pas été si compliqué que ça parce que je ne me suis pas énormément posé la question. Mais je sens que chez les autres, c'était une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner ce personnage-là au fromager de la famille Deschiens? Donc, je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire parce qu'on disait, non, c'est pas possible. Quand, après, il y a eu la proposition, de longues années après, par exemple, de jouer dans Baron Noir et de jouer ce personnage de Michel Vidal,
sentais que... formidable, la série politique de Canal avec Cadmérade, avec Anna Mouglalis, c'est dans laquelle vous incarnez un personnage qui a vraiment l'ADN de Jean-Luc Mélenchon. Hein.
Qui est proche, en tout cas, qui a la même situation politique.
Voilà.
Et je pense que quelques années après les Deschiens, ça n'aurait pas été possible. Là, le temps
a fait son œuvre
et j'avais le droit.
On retrouve tout de suite François Morel.
Europe 1.
Stevie Wonder, I Wish, et ça repart.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Auteur, acteur, chanteur, fantaisiste et philosophe. Ciseleur de mots d'esprit, François Morel excelle en tout. François Morel que vous entendez rire. Lui qui a été couronné d'un Molière pour son spectacle intitulé « J'ai des doutes » et qui, en ce début d'année 2021, nous propose, pour tuer l'amorosité, un dictionnaire amoureux de l'inutile qui paraît chez Plon et un petit livre ciselé comme un bijou qui a pour titre « Tous les marins sont des chanteurs » publié chez Calman Levy, accompagné d'un album du même nom « Tous les marins sont des chanteurs » donc et qui déjà est dans les bacs. Alors François Morel, dans ce livre, conçu avec le cinéaste et auteur Gérard Mordillat et avec Antoine Salaire, vous évoquez l'œuvre d'un jeune pêcheur et marin breton, disparu en mer à l'âge de 30 ans, en 1900, disparu donc dans les bancs de Terre-Neuve, Yves-Marie Le Guilvinec, tel une sorte de Rimbaud des mers. Vous livrez toute sa biographie, vous livrez l'intégrale de ses textes, sauf que personne jamais n'a entendu parler de ce Yves-Marie Le Guilvinec. Et voilà, cet hommage, c'est la question que je me pose, hein, cet hommage pourrait-il être un exercice de style sans précédent, c'est-à-dire une pure invention, une fantaisie à la Romain Gary, car en fait, Yves-Marie Le Guilvinec n'existerait pas.
Bah, c'est incroyable, parce que j'ai remarqué, par exemple, il n'y a pas une seule rue Yves-Marie Le Guilvinec en Bretagne. Alors je crois qu'il y avait une ruelle à Trigavou, mais qui a été détruite au moment de la construction de la rocade vers Dinan.
Dommage hein, pour sa postérité, c'est bête. Mais tout de même, alors moi c'est pas grave, hein, je continue sur mes convictions. Il y a de sacrés farceurs autour de ce livre, parce que je vois Docteur Patrick Peloux, n'est-ce pas ? Est cité, un certain illustrateur Pignon Ernest. Pignon Ernest, formidable. Et puis, ne renonçons à rien, donc vous prétendez avec un sérieux inébranlable que Léo Ferré s'est inspiré, bien sûr, d'un refrain de Le Guilvinec pour écrire son chef-d'œuvre Avec le temps.
Oui, il y a une différence de ton.
Oui,
c'est-à-dire que
oui c'est ça, il y a une différence
avec
de ton.
Le temps, c'est
ça,
en...
ça vous êtes responsable de tout, là.
Avec
moi, je
le
me tais.
Temps, c'est en mineur et avec le ton. Qui était une publicité pour le Connétable, je crois, pour une publicité pour une marque qui s'appelle le Connétable, c'est en majeur. Avec le ton, va tout, t'es bon. Voilà, mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Hein.
Non, mais enfin, heureusement, maintenant, le livre existe.
Oui.
Hein, l'intégralité de l'œuvre. Ça, quand même, ce goût du jeu, il vous emmène très très loin, François Morel.
Je crois que c'est né aussi du goût de l'amitié. Avec les trois, c'est-à-dire avec Gérard Mordilla et avec Antoine Salaire. Avec Antoine, on s'amuse beaucoup à écrire des chansons, on a une complicité depuis une dizaine d'années, et je m'amuse comme un fou.
Et vous aussi, donc,
mais en tout cas, on s'amuse bien à faire des trucs ensemble. Et puis, Gérard Mordilla, je connais depuis quelques années, et avec Odile Conseil, il s'occupait d'un festival au Havre qui s'appelait Ciné Salé,
oui.
Et Odile et lui m'avaient invité pour conclure le festival d'il y a quelques années. Et il m'a dit, tu viens chanter tes chansons, oui, d'accord. Et puis il m'a dit, il faudrait que tu mettes des chansons de marin, des chansons de mer. Et j'ai dit, attends, j'en ai pas dans mon répertoire. Mon Dieu, tu vas bien t'arranger, tu chantes un truc.
T'en as pas dans ton répertoire, tu vas les inventer.
Oui, voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait la rencontre avec Yves-Marie Le Guilvinec.
Voilà. Alors, en prenant la plume d'un certain, Le Guilvinec, François Morel, poète maudit disparu en mer à 30 ans. Pourquoi avez-vous choisi pile à 30 ans d'ailleurs? Pourquoi pas?
Mais dans le fond, il nous enterrera tous.
Oui, sûrement, voilà.
À partir de maintenant, l'œuvre...
Voilà, il appartient à la postérité,
voilà.
Grâce à vous. Donc, vous avez écrit Masqué, des textes épatants qui parlent de l'amour, de la joie, de la mort, de l'ivresse, et puis même d'écologie.
Oui, c'est incroyable, oui, parce qu'il sentait les choses. Hein. Quand on voit que ça a été écrit en 1895 et qu'il imagine déjà qu'un jour, il n'y aura plus d'oiseaux dans le ciel et plus de poissons dans la mer, oui, c'est incroyable qu'il ait pu voir ça de cette façon-là. Le fait aussi de chanter l'œuvre d'Yves-Marie Le Guilvinec, pour nous, c'est aussi une façon de toucher des thèmes que j'aurais peut-être pas osé écrire moi-même en mon nom propre.
C'est vrai.
Mais comme c'est Yves-Marie qui les écrit, je me dis, tiens, j'ai le droit de chanter
c'est
ça.
C'est estampillé marin breton. Bon, alors François Morel, tout ça, ça devait donner un spectacle musical formidable à la Scala de Paris. Vous attendez en apnée, c'est ça, en ce moment? Le spectacle, il aura peut-être lieu à partir, je ne sais pas, de septembre de cette année ou...
Je ne sais pas exactement, mais je suis sûr qu'on le jouera. On a fait une première présentation hier après-midi devant quelques amis, devant des gens qui étaient bien séparés sur des sièges au Théâtre du Vésinet, où on a pu répéter pendant une belle semaine. Et puis voilà, le spectacle est quasiment prêt. Maintenant, il nous manque que les spectateurs.
Voilà, la première personne qui a eu l'idée de vous faire chanter, François Morel, c'est Jean-Michel Ribes, c'est ça, au Théâtre du Rond-Point?
C'est lui qui m'a sollicité. En fait, il savait qu'avec Reinhard Wagner, on écrivait des chansons. Et il m'a appelé un jour, j'étais en tournage avec Antoine Decaune. Et puis, il m'a appelé l'après-midi, il m'a dit, tiens, tu viendrais pas chanter tes chansons au Théâtre du Rond-Point, dans la petite salle? J'ai dit, et je me suis entendu dire, oui, d'accord, si tu me mets en scène. Parce que moi, je n'étais pas très sûr de moi comme chanteur. Et donc, je m'étais dit, si vraiment je suis un chanteur trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée. Donc, j'avais demandé à Jean-Michel de me mettre en scène pour que ce soit un comédien qui fasse le chanteur. Et donc, ce qu'il a fait, et on a fait un spectacle.
Et
qui
révélation, voilà.
En tout cas, joie de chanter.
Joie de chanter.
Oh, ouais.
Alors, François Morel, j'ai appris que vous aviez écrit des chansons, bon, pour plusieurs artistes, mais précisément pour Juliette Gréco. Comment écrit-on dans le sillage de Prévert, de Ferré, de Brel ou de Raymond Queneau?
On a juste eu la chance d'avoir une chanson qui a été choisie, qui s'appelait Le Petit Pont, que Antoine Salaire et moi avions écrit pour Juliette Gréco. En fait, ça faisait plusieurs disques de Juliette Gréco où on nous sollicitait. Vous voulez
c'est
pas
elle qui vous avait demandé d'écrire pour elle?
Son directeur artistique, je crois. Ça serait bien que vous écriviez des trucs pour Juliette Gréco. Et à chaque fois, je crois que j'en faisais trop, j'en mettais trop. J'étais impressionné et donc je voulais des grands sujets.
Vous aviez l'impression que Prévert et, ouais, et Raymond Queneau étaient derrière votre épaule pendant que vous griffonniez comme ça la page blanche.
J'avais très fort le sentiment d'être insuffisant après Queneau et Prévert, oui. Donc un jour, on a eu à nouveau une proposition et j'ai dit à Antoine, donnons-nous rendez-vous à 18h. On était entre deux dates de tournée, on était à Toulouse. Et je lui ai dit, Antoine, on se donne rendez-vous à 18h, on prend du papier, on écrit, et à 20h, on va prendre l'apéritif et on aura fait une chanson pour Juliette Gréco. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire, c'était comme un jeu.
Ouais,
et on a été le plus léger possible. Et je pense qu'en fait, ce qui l'intéressait chez nous, c'est justement qu'on lui apporte un petit peu de légèreté. Donc, c'est une toute petite chanson sur un tout petit pont.
Mais votre réaction, la première fois que vous avez entendu l'interprétation de Juliette Gréco?
Oh, c'était très émouvant. Puis, je suis allé la voir aussi... au studio Faber, je crois.
Ferber,
voilà. Le studio, dans le 20...
Et dans le 20e arrondissement.
Dans le 20e arrondissement, oui. Donc c'était extrêmement émouvant de la voir chanter et avec une... comme elle était, c'est-à-dire hyper modeste, hyper traqueuse, très, très, ouais, une belle personne, quoi. Et ça nous a permis aussi de pouvoir les rencontrer à Ramatuel, Gérard Joannest, oui, son mari, oui, musicien, et elle. Et c'était délicieux parce que Gérard Joannest, il s'intéressait à tout. Antoine Salaire avait des instruments un peu... électronique et tout ça qu'il ne connaissait pas, et donc ça l'intéressait beaucoup. Alors c'était assez émouvant, quoi, de passer ce moment avec lui.
On retrouve tout de suite François Morel.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
François Morel, dans l'excellente série télé Baron Noir sur Canal+, qui révélait tout du off en politique, vous incarniez face à Cadmérade, en course pour la présidentielle, vous incarniez donc le leader de Debout le Peuple, parti presque cloné sur la France insoumise, et votre personnage avait fortement l'ADN de Jean-Luc Mélenchon. Or, j'ai appris que l'auteur de la série, Éric Benzekri, est un ancien du cabinet de Jean-Luc Mélenchon. Donc, les discours qu'il a écrits pour vous dans Baron Noir, en fait, n'avaient rien à envier à ceux qu'il écrivait pour Mélenchon il y a quelques années.
Peut-être, en tout cas, c'était très inspiré de ça, oui, oui. Mais à aucun moment, on ne m'a dit de jouer Jean-Luc Mélenchon, donc j'ai pas du tout cherché à l'imiter ou quoi que ce soit. Simplement, il était dans la même situation politique, c'est-à-dire qu'il était à la gauche du PS, et voilà. Et c'est vrai que...
Et avec la même ambition que votre personnage, Vidal.
C'est vrai que je pense qu'Éric Benzekri a écrit ce personnage-là avec soin, parce qu'il connaissait bien Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon a pas vraiment regardé la série.
Il ne vous a jamais envoyé de signe. Vous n'avez eu aucun retour de Mélenchon.
Non, mais c'est normal.
Me dit François Morel, nous dit François Morel, mais avec une petite hésitation aussi.
Non.
Il l'a vu, la série.
Je ne sais pas, il faut lui demander, mais je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais c'est que, voilà, c'est peut-être compliqué aussi, pour lui, de voir ça. En tout cas, je trouvais que le personnage... Moi, j'ai adoré jouer ce personnage-là, parce que d'abord, c'est un personnage qui est très fort, qui a une grande culture. C'était un personnage qui était magnifiquement écrit.
Et très tactique.
Très tactique, très intelligent, très cultivé. Et puis aussi... j'aimais bien ça. Je trouvais que la deuxième saison était, quand je suis arrivé, moi, c'était sur la deuxième saison, je trouvais que le personnage était un peu trop technique. C'est-à-dire
il s'humanise dans la troisième saison.
Oui, c'est ça. On voit sa femme, on voit aussi ses failles. Et moi, je trouvais le personnage hyper attachant, quoi.
François Morel, vous dites que homme politique, c'est une vie de chien.
Oui. Mais j'aime bien la saison parce que effectivement, ça parle de tactique et de certaines petitesses et tout ça, mais ça montre aussi quelle vie ils ont. Enfin, je trouve qu'ils sont, en plus, ils se font
le
critiquer.
Le carburant phénoménal, la capacité à résister, en fait, à des guerres permanentes, à des choses trappes permanentes.
Et au départ, c'est quand même un peu pour changer le monde et pour l'améliorer, donc ça part quand même d'un bon sentiment.
Mais cette quête du pouvoir ne vous laisse pas songeur, quand même. Même si au départ, ça part d'un besoin d'amélioration, mais en étant le grand chef d'orchestre.
Ouais, non, mais je suis pas assez qualifié pour parler de politique. Vraiment, je trouve qu'il morfle beaucoup et qu'il faut qu'il y ait quand même des hommes politiques, il faut qu'il y ait des gens qui nous représentent. Ce que j'aimerais bien, et là peut-être que je serais d'accord avec M. Mélenchon sur ce sujet, c'est je pense que moi je pense plus au groupe qu'à l'individu. Donc je pense qu'il n'y a plus de grand personnage qui va venir sauver le monde ou la France. Et je trouve la Ve République, c'est trop basé sur un seul homme. Et je trouve ça dommage. Donc ça, voilà, on tombe à chaque fois sur... Je pense qu'on pourrait tomber sur mieux.
François Morel, et c'est une fan de la série qui vous pose la question, y aura-t-il une saison 4 de Baron Noir?
Non. Ben non, il n'y en aura pas.
Mais c'est pas possible,
vous êtes déçu, et moi aussi. Mais enfin, moi, je le sais depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc,
c'est définitif, comme
avis. Mais je crois que oui. Mais parce qu'Eric s'est beaucoup investi sur Eric Benzekri, qui est l'auteur de la série. Il a écrit beaucoup et ouais, il était aidé. Mais enfin, je pense qu'il avait beaucoup de choses sur les épaules et qu'il avait envie de changer un peu d'univers. Et un peu, voilà, donc il avait envie de faire autre chose.
Bon, alors revenons à votre carrière d'auteur, François Morel, parce que vous êtes vraiment prolixe. Vous écrivez des romans nombreux, vous écrivez des essais, des livres.
Voilà. Non. Ouais.
Vous écrivez des chroniques régulières et puis des chansons, comme pour l'album Tous les marins sont des chanteurs.
Oui.
En fait, votre vie est une gymnastique permanente.
Bah, je crois que je suis assez bien organisé. Et voilà, donc ça marche pas trop mal. Mais je suis pas romancier du tout. Je serais pas capable d'écrire un roman, justement. J'écris des choses courtes et je pense que je suis meilleur dans le laconique, moi. Donc, écrire une chanson, j'adore ça, ou écrire une chronique, essayer de raconter quelque chose sur 3 minutes, pour moi, ça me va bien. Mais
j'ai
pas le projet d'écrire les Misérables.
Dans ce petit traité de déconstruction et reconstruction qu'est Au comptoir des philosophes, les grandes citations revues et corrigées, voilà, qui est paru chez Philosophie Magazine. Faut de l'aplomb hein, pour tordre le cou avec autant d'humour à la philosophie.
Oui, c'est-à-dire que je crois que c'était une proposition d'Alexandre Lacroix, qui est le directeur de Philosophie Magazine. Et à la fin de la revue, il y a quelques pages, il y a Catherine Meurice qui fait 2 pages de BD et moi qui raconte des bêtises. Donc je pars d'une...
Des bêtises.
Un peu quand même. Selon le moment, c'est une chronique, quoi. C'est-à-dire, je suis parti d'une citation et à chaque fois, je la détourne, je tourne autour et j'essaie de raconter quelque chose qui nous concerne.
Voilà, et là, on retrouve ce goût des mots de celui qui, à 21 ans, avait décroché sa maîtrise de lettres.
Voilà.
On retrouve tout de suite François Morel.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
François Morel. Votre fils Valentin, avec lequel vous avez écrit le dictionnaire amoureux de l'inutile, est très très discret sur les réseaux sociaux et dans les médias. À peine sait-on qu'il rêverait de devenir cinéaste et a été assistant réalisateur sur un film. En fait, Valentin a, à force d'observer son père, selon vous, qu'a-t-il compris de ce métier qui lui donne tant l'envie d'en être? Il aurait pu choisir un aiguillage totalement différent.
Mais je sais pas exactement. Faudrait lui poser la question. Mais je pense pas qu'il ait l'ambition, par exemple, d'être devant la caméra. Ça, c'est sûr. Mais je remarque qu'il a du talent pour écrire. Je pense qu'il pense bien. Même parfois, maintenant, quand j'écris des chroniques, je lui envoie et je suis très sensible à ce qu'il me dit parce que je trouve qu'il est plutôt plus intelligent que moi.
Il a fait une école de cinéma, Valentin.
Oui.
Et il a été, alors,
Il a fait même 2 écoles de cinéma, il en a fait une à Louvain-la-Neuve aussi.
Dans le fameux dictionnaire Amoureux de l'inutile, alors j'imagine que le chapitre sur le fameux 3e assistant réalisateur, qui est un poste inutile, ça vient d'une frustration vécue par Valentin,
Je pense, oui. Il a été plusieurs fois 3e assistant et je crois qu'il en avait marre d'être 3e assistant. Mais c'est difficile. Personne ne veut être plombier, tout le monde veut travailler dans le cinéma, alors forcément, il y a une concurrence énorme.
François Morel, on sait bien que dans tous les métiers artistiques, la chance est un paramètre qui pèse lourd. Au-delà du talent, en fait, quel tempérament faut-il posséder pour affronter tout ça?
Je pense qu'il faut être très entêté. Moi, s'il y a une qualité que j'ai, c'est que je suis un garçon entêté. J'avais envie d'écrire et de jouer, en fait, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai eu la chance aussi d'avoir plein d'incapacités. J'étais obligé de me concentrer.
Comme ça, vous êtes concentré sur vos talents.
Mais c'est vrai qu'on connaît sûrement, vous et moi, des gens qui ont du talent dans plein de choses. Ils ont du talent partout qu'ils réussissent à s'exprimer nulle part. Alors que moi, j'étais tellement nul en gym, en plein de trucs, que j'ai fait
l'école. Voilà. Alors, François Morel, en ce moment, paraît-il, vous travaillez avec Jacques Weber pour un Cyrano de Bergerac à la télévision, c'est ça?
On a fait 2 choses avec Jacques Weber. J'adore Jacques. En fait, on a fait 2 choses. On a fait Oncle Vania.
Ah oui. Tchekhov.
Atelier Vania et Atelier Cyrano. C'est-à-dire qu'on a profité du confinement pour s'enfermer dans un théâtre dans lequel il ne pouvait pas y avoir de spectateurs. Mais on a travaillé sur...
Atelier Rostand, Atelier Tchekhov.
Ouais, c'est ça. Et le fait que ce soit l'atelier, c'est parce que c'était dans le théâtre de l'atelier, qui est quand même un théâtre magnifique.
Ouais, au cœur de Paris, sur une petite place merveilleuse.
Ouais, j'adore cet endroit-là. Et le fait que ça s'appelait atelier, ça m'a autorisé. Moi, il y a quelques années, Jacques m'avait proposé de jouer au théâtre Cyrano de Bergerac. Et je me disais...
Mais alors d'incarner Cyrano ?
Ouais, et j'avais décliné à l'époque... Parce qu'il y a quelques grands Cyrano, et je me disais, moi, il faut mieux que je raconte mes petites bêtises à moi, tout seul, où je vais être plus singulier, plus original, que de passer derrière Jacques Weber au théâtre, justement, ou Gérard Depardieu,
ou Jean-Pierre. Voilà, Depardieu au cinéma. Mais cette fois-ci, c'est vous, Cyrano, François Morel.
Et ben là, du fait que ça s'appelait Atelier Cyrano, je me suis dit, ouais, j'ai le droit, moi, de participer à un atelier où je vais travailler sur ce texte qui est quand même incroyable, qui est quand même d'une richesse inouïe, qui est tellement un texte théâtral très émouvant. Enfin, il y a des morceaux de bravoure formidables. Et donc, moi, je voulais bien travailler sur un atelier
Mais
Cyrano.
Ça a été tourné, donc.
Ça a été tourné.
Ce sera diffusé quand
je
ne
sais pas.
Où
ça sera diffusé sur France 5.
Oui.
Je crois que Vania peut-être sera diffusé un soir au printemps, là, cette année. Et puis, Cyrano, il n'est pas encore monté, donc on l'a juste joué. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou. Et puis, c'est un homme... C'est bien de travailler avec Jacques Weber, parce que c'est le type le plus impatient dans la vie. Il ne supporte pas quand il veut un café, il veut immédiatement. S'il commande au restaurant, il veut le plat tout de suite. Tout ça. Il est impatient. Et il est d'une patience d'ange quand il dirige des comédiens. Et il a tellement de choses à raconter, notamment sur Cyrano, que c'est un bonheur de l'écouter en parler.
Donc là, vous êtes à la fois acteur et spectateur aux côtés de Weber, c'est
ça ? Oui, j'aime bien le regarder, oui.
Alors, cher François Morel, on va, hélas, déjà devoir se quitter, mais
déjà.
J'aimerais qu'on se quitte sur cette phrase qui peut, en fait, figurer dans votre livre Au comptoir des philosophes, une phrase qui colle vraiment à l'actu. Il est trop tard pour être pessimiste, alors soyons optimistes. C'est un peu votre mantra, ça ?
Oui, c'est...
pas tout
c'est,
à fait.
C'est, bah si, peut-être. Je pense que l'optimisme, c'est toujours une volonté. Alors, tiens, je peux lire un truc, moi, que j'adore.
Mais oui.
Frédéric Perrault vient de sortir un livre qui est très joli, qui s'appelle « Pour une heure oubliée ». Et il a mis en exergue cette phrase-là qu'on adore tous, mais enfin, c'est un tel bonheur de le redire. « Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants, Marcel Pagnol.
On va se quitter là-dessus, alors. D'accord. Et puisque la période est propice à la lecture, eh bien, je rappelle, François Morel, la sortie de vos livres, Tous les marins sont des chanteurs, chez Calman Lévy, Le dictionnaire amoureux de l'inutile, chez Plon, et puis votre petit traité de philosophie, Au comptoir des philosophes, qui paraît chez Philosophie Magazine, voilà. Et puis, il y a bien sûr l'album qui a pour titre Tous les marins sont des chanteurs, et qui va nous embarquer vers des horizons lointains, voilà. Cet album, il est déjà dans les bacs.
Ouais.
Zut alors, le temps passe trop vite. Il va falloir céder le micro. Je vous embrasse, je vous remercie.
Moi aussi, je vous embrasse.
Une belle année 2021.
Merci beaucoup.